La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Les mesures prises il y a 30 ans pour protéger la couche d'ozone sont un succès et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Un accord historique vient d'être conclu à Montréal par les représentants de 46 pays industrialisés. Ils ont décidé de stabiliser d'abord, puis de réduire progressivement l'utilisation des aérosols contenant des composés de fluor et de chlore. L'accord de Montréal, qui doit maintenant être ratifié par les 46 gouvernements, est donc un accord fondamental pour tout l'avenir de la vie sur la Terre.
Voilà, c'était dans le journal de 20h d'Antenne 2, donc à l'époque, en 1987. Le protocole de Montréal, premier protocole environnemental à atteindre la ratification universelle, définissait donc une feuille de route précise pour stopper les émissions de composés appauvrissant la couche d'ozone. Et 30 ans après, les analyses démontrent son efficacité et le trou commence à se résorber. Et c'est une bonne nouvelle, on va pas s'en priver, on en parle aujourd'hui à la une de la science, Axel.
Oui Mathieu, nous sommes avec Sophie Godin-Beckmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Commission internationale sur l'ozone et directrice de recherche au LATMOS. On est également avec Hervé Kempf, notre partenaire pour le magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Alors Sophie Godin-Beckmann, 30 ans pour voir la première preuve d'une résorption, c'est ce qu'on prévoyait en 87 au moment de la signature ?
Oui, en fait, c'est pas tout à fait 30 ans parce qu'on a déjà vu une première étape de l'efficacité du protocole de Montréal à la fin des années 90, début des années 2000, lorsqu'on a vu que la baisse de l'ozone était arrêtée et que finalement la couche d'ozone était stabilisée à des niveaux inférieurs, certes, à ceux qui prévalaient avant les années 80. Mais quand même, la destruction d'ozone s'était stabilisée.
Alors qu'est-ce qu'on voit réellement aujourd'hui de nouveau ? C'est le retour de l'ozone dans ce trou, il faut le dire comme ça ?
Oui, c'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est les premiers signes d'augmentation de l'ozone et la publication que vous avez mentionnée permet d'attribuer ce début d'augmentation de l'ozone qui est très faible encore à la baisse des composés chlorés à l'intérieur du vortex polaire antarctique.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, pour rafraîchir la mémoire, ce qui s'est passé dans les années 70-80 et qui a causé le problème ?
En fait, on s'est rendu compte, dans les années 70, il y a eu une première alerte où on s'est rendu compte que ces produits chlorés, les CFC produits par l'industrie chimique, pouvaient porter atteinte à la couche d'ozone. Ensuite, donc, à la fin des années 70, il y a eu une première, un premier ban des sprays aérosols. Ensuite, il y a eu la signature de la Convention de Vienne en 1985 et la même année, l'apparition d'un article montrant une diminution de l'ozone au-dessus du printemps polaire en Antarctique qui était inexpliquée.
Hervé Kempf avait une question à vous poser.
En fait, je me demandais pourquoi c'est difficile d'observer la reconstitution ? Quelle est un peu la procédure expérimentale qui vous a permis d'arriver à cette conclusion ?
En fait, c'est des signaux très très faibles qu'on doit distinguer dans la variabilité atmosphérique qui prévaut même dans la stratosphère, même si c'est une région qui est moins variable que la troposphère. Et donc, on est obligé de mettre ensemble à la fois des mesures satellites, des mesures sol qui calibrent les mesures satellites, et donc de faire des analyses statistiques qui permettent finalement de soustraire cette variabilité atmosphérique pour ensuite distinguer le signal très faible de reconstitution de la couche d'ozone.
Ces mesures prises en 10 ans et leur application en 30 ans, c'est un véritable succès. Pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose pour le climat ?
Pour le climat, c'est beaucoup plus compliqué parce que le problème du climat, ça touche tous les secteurs économiques de la société, alors que là, il s'agit essentiellement de l'industrie chimique. En plus, l'industrie chimique, finalement, avait déjà eu une première alerte dans les années 70. Donc, ils avaient commencé à préparer des substituts. Ça concernait un petit nombre d'acteurs, en plus, à l'époque, principalement dominés par Dupont de Nemours. Donc, ils avaient déjà commencé à accompagner la recherche aussi. Il y avait le modèle chimique de Dupont de Nemours. Et donc, La problématique était plus simple que pour le changement climatique.
Sophie Godin-Beckmann, je rappelle donc que vous êtes la présidente de la Commission internationale sur l'ozone. Est-ce que les scientifiques ont été surpris eux-mêmes de voir la rapidité, au fond quand même, du processus entre le protocole en 87 et les premiers résultats aujourd'hui ?
En fait, ce qui est assez remarquable, c'est plus le fait qu'on ait réussi à comprendre le processus de destruction de l'ozone en Antarctique 2 ans après l'article qui le signalait. Donc ça a été très rapide. Et au même moment, pratiquement le même mois où ces mesures ont été faites, le protocole de Montréal était signé. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait quand même une certaine efficacité dans la façon de pouvoir signer des protocoles internationaux environnementaux.
On en est où aujourd'hui de l'application de ce protocole? Est-ce qu'on continue d'émettre des polluants pour l'ozone?
L'avantage du protocole de Montréal, c'est qu'il établit des feuilles de route précises. Donc ça permet en fait à l'industrie de s'orienter dans le futur, d'avoir des objectifs précis. Donc on a suivi en fait la feuille de route du protocole, c'est-à-dire que les pays en voie de développement et les pays développés avaient une feuille de route différente, avec un effort plus important pour les pays développés. Les CFC, les plus importants contributeurs de la destruction de l'ozone, ont arrêté d'être produits en 96 dans les pays développés et en 2010 dans les pays en voie de développement. Ensuite, on avait prévu plusieurs gammes de substituts pour pouvoir ensuite continuer quand même les applications économiques relatives aux CFC qui avaient été interdits.
Et justement, en octobre 2016, à Kigali, il y a eu un accord international pour bannir progressivement les hydrofluorocarbures. Ce sont donc les substituts aux CFC ou HFC que vous venez de nous expliquer. Alors ça, c'est une nouvelle très importante, mais ça suppose aussi qu'il y ait une pleine coopération des pays développés et notamment des États-Unis. Est-ce que le nouveau gouvernement de Monsieur Trump ne risque pas d'affaiblir cet accord et donc de retarder la reconstitution de la couche d'ozone?
Oui, alors là, c'est toute la question. Effectivement, il se trouve, le protocole de l'amendement de Kigali était extrêmement important parce que il se trouve que les HFC, c'est la deuxième gamme de substituts qui ne portent pas atteinte à la couche d'ozone. Donc, le succès diplomatique à l'époque, c'est d'avoir réussi à introduire des gaz qui sont des gaz à effet de serre qui ne portent pas atteinte à la couche d'ozone dans le protocole de Montréal parce qu'on savait qu'il était efficace. Et aussi, un des succès du protocole de Montréal, c'est d'avoir introduit un fonds multilatéral d'aide, de solidarité entre les pays développés et les pays en voie de développement. Fonds multilatéral qui était majoritairement abondé par les États-Unis. Et donc, effectivement, il y a une incertitude actuellement. Bon, il se trouve que là, en 2017, pour les 30 ans du protocole de Montréal, à Montréal, justement, à la COP, il y a eu un accord pour abonder ce fonds. Donc, pour l'instant, pour un an, on est tranquille. Après, seul l'avenir nous dira ce que fera l'administration Trump à ce sujet.
Ce trou de la couche d'ozone, il se trouve où sur notre planète et est-ce qu'il évolue au fil de l'année?
Alors, il se trouve au-dessus de l'Antarctique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trou qui se forme en fin d'hiver et qui se creuse tout au long du mois de septembre, au printemps austral, et qui perdure courant octobre et ensuite qui se disloque du fait des conditions météorologiques et dynamiques particulières de la stratosphère en hiver dans cette région.
Combien de temps avant qu'il se résorbe si on suit le même rythme et qu'on réussit à suivre le protocole?
Les modèles prédisent une résorption complète du trou d'ozone à partir des années 2060-2070 à peu près.
Merci beaucoup Sophie Godin-Beckmann. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes suite à cette
Tout
publication
à
et ça fait du bien de le dire enfin aujourd'hui à la Une de la Science. Merci beaucoup de vous être déplacée aujourd'hui et Axel, à demain.
À demain.
La science de l'environnement en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.